Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Claude Viani qui, comme d'habitude, a réalisé le montage des photos avec beaucoup de patience et de précision. L'histoire de l'art des siècles passés semblait établie, or de récentes recherches modifient sans cesse bien des certitudes. En particulier, les femmes artistes reprennent leur place dans cette chronologie. En 2013, j'ai présenté Artemisia Gentileschi comme la première femme peintre célèbre de l'histoire de l'art. Or, en consultant des articles, je me suis aperçu que je méconnaissais Lavinia Fontana, 1552-1614, et que j'avais sous-évalué l'importance de son œuvre. Elle aussi, 40 ans avant Artemisia, s'est rendue célèbre en pratiquant le grand genre. Ce sera le sujet principal abordé ce soir. Je vous préviens tout de suite, si j'ai le temps, et je pense avoir le temps, vers la fin, pendant 5 ou 6 minutes, je vous parlerai de deux autres femmes, mais d'une époque moderne. Ce sera un peu hors sujet, mais je vous expliquerai ça en cours d'exposé. Alors, je ne trouvais que cet autoportrait de Sœur Plautilla. Je vais vous expliquer qui est Sœur Plautilla. Mais alors que je rassemblais la documentation pour mon exposé sur Lavinia, je suis retombé sur un nom, Plautilla Nelli. J'avais déjà rencontré ce nom, mais n'y avais pas attaché d'importance, car j'étais persuadé qu'il s'agissait probablement d'une artiste peignant des natures mortes. Or, c'est le fait de pratiquer le grand genre qui distingue une ou une artiste des autres. J'avais négligé un détail. Dans son ouvrage « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes », le peintre et historien de l'art Giorgio Vasari parle de Plautilla en termes élogieux et la présente comme la première femme peintre de la Renaissance italienne. Vasari la complimente en déclarant « Il y avait tellement de ces tableaux dans les maisons de messieurs à Florence, il serait fastidieux de tous les mentionner ». Une petite recherche à son sujet m'a convaincu. Avant de vous parler de Lavinia, il me fallait évoquer le destin très particulier de Sœur Plautilla, qui elle aussi, 25 ans avant Lavinia, a pratiqué à sa manière le grand genre. Son nom était Pulicena Margarita Nelli, 1524-1588. Elle est issue d'une famille aisée de la bourgeoisie. Je vais faire passer une autre... photo, c'est plus distrayant. Donc, elle est issue d'une famille aisée de la bourgeoisie marchande florentine. Son père, Piero di Luca Nelli, était un marchand de tissus prospère. La famille Nelli était bien connue à Florence et une rue porte aujourd'hui son nom, la Via del Conto de Nelli. En 1537, à l'âge de 14 ans, Pulicena entra au couvent des Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, situé place San Marco à Florence, et prend alors le nom de Sœur Plautilla. Sa sœur Costanza, religieuse également sous le nom de Sœur Petronilla, a écrit une vie de Savonarole. Les prêches de Savonarole conservaient une influence chez les Dominicains au début du XVIe siècle. Le prédicateur fanatique encourageait les religieuses à dessiner et à peindre des scènes édifiantes pour ne pas laisser prise à la paresse. Le couvent Sainte-Catherine de Sienne devint ainsi un véritable centre de sœurs artistes. Selon Giorgio Vasari, Sœur Plautilla débuta par copier des tableaux des grands maîtres et finit par faire elle-même de véritables chefs-d'œuvre qui émerveillèrent les artistes. En réalité, les religieuses ne pouvaient sortir que rarement du couvent et Plautilla a dû s'inspirer de copies qui circulaient en abondance à Florence. Elle a probablement commencé par copier des dessins de Fra Bartolomeo, peintre de scènes religieuses et moine dominicain, qui fut très influencé par Savonarole. Sœur Plautilla passera sa vie dans le couvent Santa Caterina da Siena, dont elle fut une personnalité exceptionnelle, non seulement dans le domaine artistique, mais également en tant que religieuse. Car elle a été élue à plusieurs reprises prieure de son couvent, c'est-à-dire qu'elle le dirigeait, et elle possédait un réel sens du management. Elle y crée un atelier de peinture religieuse, activité lucrative, puisqu'elle assurera l'indépendance financière du couvent. cloîtrés, les moniales apprennent leur art grâce aux copies, gravures et dessins des œuvres de leurs contemporains. Plautilla se trouvait donc à la tête d'un atelier important de production artistique, dessins, gravures, tableaux. Et les réalisations étaient vendues à des ecclésiastiques, des églises, des monastères, mais aussi à des aristocrates et à des bourgeois aisés, de telle sorte que les ventes d'œuvres d'art représentaient la partie la plus importante des ressources du couvent. S'il existait un véritable atelier de production artistique dans le couvent, les collaboratrices et les élèves de Plautilla n'avaient pas son talent. Il est ainsi parfois difficile de distinguer ce qui est de la main de Sœur Plautilla de ce qui est l'œuvre de l'atelier. Les historiens ont cependant progressé, mais beaucoup d'incertitudes subsistent pour les attributions. L'art de Sœur Plautilla Nelly a sans doute été entravé par les limites de la condition féminine au XVIe siècle. Giorgio Vasari, toujours lui, est cependant très élogieux à son propos. « Une nativité du Christ qu'elle fit, d'après le Bronzino, montre à quelle hauteur elle se serait élevée si, comme tous les peintres, elle eût eu la faculté d'étudier d'après nature. On peut s'en convaincre facilement par ses propres ouvrages où les têtes de femmes qu'il lui était permis d'étudier à loisir sont bien supérieures aux têtes d'hommes qu'elle était obligée d'imaginer. » L'œuvre de Plautilla Nelly a pour thème l'édification des chrétiens par l'image. Elle s'inspire davantage des artistes du XVe siècle que de ses contemporains. Il s'agissait d'illustrer des épisodes religieux pour propager la foi et non pour renouveler l'approche artistique. L'essentiel de sa production peut être rattaché à la période 1550-1588, mais les dates exactes restent incertaines. Sœur Plautilla était appréciée de nombreux mécènes et exécuta toiles et miniatures. Voici quelques œuvres. Celle que vous avez sous les yeux, c'est une annonciation qui est au Palazzo Vecchio, à Florence. Le tableau s'inspire de ceux du XVe siècle. Nous sommes au début du XVIe avec Sœur Plautilla. Donc, vous voyez, un décalage au niveau stylistique. Le tableau donc s'inspire de ceux du XVe siècle avec une Vierge placée dans une architecture à arcades permettant de mettre en évidence l'effet de perspective. Fra Angelico, Filippo Lippi et bien d'autres avaient utilisé cette composition dès la première moitié du XVe siècle. Voici une Pentecôte qui est à Perugia. Une Mater Dolorosa à gauche, qui est à Florence. Ce thème remontant à l'Antiquité présente une figure tragique de la mère. Dans l'iconographie chrétienne, cette image renvoie à celle de la Vierge souffrant de la crucifixion de son enfant. La présence du calice et des clous de la crucifixion permet d'identifier la Vierge. Et à droite, une Sainte Catherine de Sienne, évidemment, puisqu'elle vivait dans le monastère qui portait son nom. Lamentation sur le corps du Christ, qui est au musée San Marco, de 1560. Ce grand tableau faisait fonction de retable d'autel dans l'église du couvent Santa Caterina da Siena, où vivait l'artiste. Le thème de la lamentation sur le Christ mort a été traité à de multiples reprises dans le XVe siècle, et Plautilla avait certainement eu l'occasion de voir des dessins ou même des peintures sur le même thème. Elle reste influencée par l'art du XVe siècle. La maîtrise chromatique est remarquable et l'utilisation des couleurs vives et fortement contrastées peut être interprétée comme une influence maniériste. Un mouvement qui viendra un petit peu plus tard. Une crucifixion qui est dans un musée de Florence également. Le tableau était très endommagé et a été restauré ces dernières années. La composition est symétrique et très épurée. Le paysage de fin du monde, constituant l'arrière-plan, donne une grande puissance spirituelle à ce tableau. Certains y voient le chef-d'œuvre de l'artiste. Son œuvre la plus importante est une scène de 6,70 m de long, la seule de ce type peinte par une femme de la Renaissance. Alors je vous ai mis en haut le tableau avant restauration et le tableau après restauration. Je vous explique un peu son histoire. Probablement dans les années 1560, Plautil Anelli a créé une peinture grandeur nature de 6,70 m sur 1,95 m. Cette œuvre, nommée « Dernier repas du Christ », représente Jésus et les 12 apôtres lors de la dernière scène. Judas apparaît seul du côté opposé de la table. Cet artifice de composition permettant de le distinguer est courant. S'étendant sur 6,70 m, cette peinture aux couleurs vives comprend des détails soigneusement réalisés, notamment des calices à vin, des caves à sel, des boiseries et une nappe avec des plis. En plus des objets inanimés représentés, Nelly a démontré une facilité impressionnante avec l'anatomie humaine dans ses interprétations des figures religieuses. À l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à étudier l'anatomie, donc c'était un handicap pour elles, mais qu'elle a surmonté en partie. Je vous montre un détail du tableau, avant et après, restauration. Le chef-d'œuvre de Nelly est resté 2 siècles dans son couvent, Santa Caterina, puis a changé de lieu à plusieurs reprises avant d'être rapidement roulé et entreposé il y a environ 100 ans. Le tableau a subi une première restauration après les dégâts survenus pendant les inondations des années 1960, dont vous vous souvenez tous. En 2015, une nouvelle restauration a été entreprise. La grande toile a été ramenée à la vie par une équipe américaine de conservateurs, restaurateurs et scientifiques chez Advancing Women Artists, AWA, qui est un organisme de restauration composé uniquement de femmes. Le 14 octobre 2019, après plus de 4 années de restauration, l'immense toile de Plautil Anelli était dévoilée au musée Santa Maria Novella de Florence. Le dernier repas était minutieusement et magnifiquement restauré par Rosella Lari, que l'on voit devant son travail. Et maintenant, nous allons parler un peu de Lavinia, quand même. Elle était surnommée la peintre pontificale, je vais vous dire pourquoi. Alors, tout à l'heure au début, vous avez vu un portrait de Lavinia, dont on va reparler d'ailleurs. Là, c'est un petit portrait sur cuivre qui fait une 15aine de centimètres de diamètre. Un autoportrait, évidemment. Connue sous le nom de Lavinia Zappi, c'est une peintre italienne, elle est aussi connue sous le nom de Lavinia Zappi, c'est le nom de son mari, hein. Donc elle a pris ce nom après son mariage. C'est une peintre italienne maniériste de l'école bolognaise et romaine, c'est une de ces femmes peintres, réputées en leur temps, que l'histoire officielle de la peinture a négligé, et que les historiens de l'art ont récemment exhumé de l'oubli à juste titre. Elle est l'une des premières femmes peintres professionnelles en Europe à avoir accédé à la reconnaissance à une époque, à la fin du XVIe siècle italien, où celles-ci, les femmes peintres, n'avaient aucune réelle indépendance. Lavinia Fontana est considérée comme étant la première femme à avoir eu un véritable atelier et à répondre à des commandes officielles. Elle est regardée comme la première femme artiste travaillant dans la même sphère que ses homologues masculins. Lavinia est l'unique enfant de Prospero Fontana et d'Antonia de Bonardiste. Son père, Prospero, était un peintre maniériste de la contre-réforme au service du pape Jules III del Monte. Il participa à la réalisation des fresques du Palazzo Vecchio de Florence avec Giorgio Vasari. Prospero fut également un professeur réputé qui enseigna à Agostino et Ludovico Caracci. Et ce peintre que personne ne connaît, ben c'est un bon peintre, et c'est le père de Lavinia. Alors je vous montre quelques œuvres de Prospero, quand même le papa il est important dans l'histoire. Avec à gauche la Vierge, ah il faut que je passe, non, je suis bon, c'est bon. Donc, non, il n'y a pas de gauche ou de droite, c'est bon. La Vierge sur son trône avec Saint Augustin, Sainte Catherine d'Alexandrie et Saint Paul. Donc, on reconnaît, vous voyez, la franchise des couleurs, c'est un peintre maniériste, donc les couleurs sont très fortes. Et les peintres maniéristes ont pour caractéristique d'allonger un petit peu les corps et d'accentuer un petit peu les attitudes, voilà, dans un mouvement souvent tournant. Ce tableau se trouve à Berlin, comme vous pouvez le voir, et à droite, non, c'est le tableau suivant, pardon, une sainte famille avec saint Jérôme, une sainte martyre et Jean-Baptiste. C'est un tableau de 1561 qui est à Melbourne. J'ai mis côte à côte un tableau de Pontormo, qui est donc un peintre maniériste, un des principaux peintres du mouvement maniériste, qui est antérieur à, un petit peu à Prospero, comme vous pouvez voir, les dates le confirment. Deux tableaux qui représentent le même thème, une déposition. Vous voyez quand même que Prospero s'est inspiré en composition inversée de Jacopo. De toute façon, cet échange se faisait très fréquemment. Une adoration des mages. Vous voyez, la position est quand même extrêmement complexe et c'est quand même absolument maîtrisé. Il y a ce grand personnage à droite, l'un des trois mages, qui domine un petit peu la situation et qui regarde le spectateur. Et dans la partie supérieure, le monde divin qui assiste un petit peu à la scène. Et j'ai donc encore un tableau de Prospero. Ah non, pardon, j'ai pas changé l'image. Et alors, pourquoi il veut pas ? Je me suis trompé de bouton, pardon. À gauche, un tableau de Prospero, du papa et la fille. Vous voyez, c'est le même thème qui est traité, à quelques années d'intervalle. C'est un tableau, sans doute, un petit peu de jeunesse de Lavinia, qui s'inspire toujours un peu dans une composition retravaillée de son père. Malgré tout, on voit quand même les similitudes. Bien que le tableau de Prospero, à mon avis, est de meilleure qualité, une meilleure maîtrise, malgré tout. Mais c'est une œuvre de jeunesse, donc ça se comprend. Et voici, revoici plutôt l'autoportrait de Lavinia. J'aurais dû faire un petit commentaire, pardon, à propos de la relation entre le père et la fille. Donc, effectivement, Lavinia a 29 ans, on peut considérer que c'est encore une œuvre de jeunesse quand elle a peint ce tableau qui est à droite. Lavinia fait, selon l'usage, ses premières armes dans l'atelier de son père, où elle rencontre d'illustres clients, artistes et érudits, comme Ulisse Aldrovandi et le cardinal Gabriele Paleotti. La maison de son père fait pour Lavinia office d'académie et d'atelier. Elle est, cette maison, le cabinet des merveilles où l'antique se révèle curieux et rare dans les collections éclectiques que le père s'est constitué avec patience. Elle est la bibliothèque où imprimés, gravures et dessins circulent aux côtés de livres, d'emblèmes et de littératures diverses. Lavinia s'y familiarise avec les styles de la Renaissance tardive maniériste qu'elle revisitera dans un langage bien à elle. Et revoici l'autoportrait à l'épinette de 1578. En 1577, à l'âge de 25 ans, elle épouse Giovan Paolo Zappi, fils cadet d'une famille de la petite aristocratie d'Imola, une ville située non loin de Bologne. C'est un peintre mineur, élève de son père. Elle mettra au monde 11 enfants, dont seulement 3 lui survivront. À l'époque, Lavinia jouit déjà d'une belle estime comme portraitiste. Dans son autoportrait à l'épinette, que vous avez sous les yeux, probablement destiné à la famille de son futur mari, elle donne des gages de sa bonne éducation et de sa bonne moralité. Elle expose son attrait pour les arts, se conformant aux idéaux de la jeune fille instruite. Au premier plan, elle montre son intérêt pour la musique, mais elle prolonge la scène de la performance musicale par une autre à l'arrière-plan dédiée à la performance picturale. Les lignes de perspective dessinées par l'épinette et notamment par le couvercle convergent vers le chevalet, situé à dessein dans la surface du tableau à la hauteur de la tête de l'artiste. Vous voyez que si on prolonge les lignes de perspective de l'épinette, on tombe sur le chevalet qui est là et qui indique son autre talent. Cette composition manifeste son indépendance artistique et financière. Son autoportrait nous montre aussi qu'elle est belle et qu'elle est musicienne. Au fil du temps et au regard de ses talents, son mari arrête sa carrière pour devenir son assistant. C'est elle qui bâtit une carrière et lui délègue les menus travaux et les finitions de ses tableaux. Les historiens pensent qu'il l'aidait à peindre les arrière-plans et les vêtements, mais elle est l'instigatrice des compositions. Certaines œuvres sont signées Lavinia Zappi à une période de sa vie. Après son père, c'est son mari qui lui trouve donc des commanditaires. Il diffuse et vend ses œuvres. Une femme ne pouvant pas, en principe, accéder à la peinture historique et religieuse, Lavinia Fontana commence par peindre des portraits de membres de l'aristocratie et de la bourgeoisie bolognaise. Sa réputation de portraitiste, il s'agit du père, là, je vais en parler. Sa réputation de portraitiste se répand rapidement à Bologne, et comme le rappelle Carlo Cesare Malvasia, c'est un écrivain et un historien de l'art italien du XVIIe, connu pour ses biographies des artistes baroques. Il dit « Toutes les dames de la ville se battent pour la voir quelques instants auprès d'elle, la retenant et la caressant avec force démonstration d'amour extraordinaire et de respect, se vantant à qui veut les entendre d'avoir été vue dans les rues et réunions en compagnie de la jeune virtuose, leur souhait le plus cher étant d'être portraiturée par elle. » Lavinia est aimée pour la précision artistique avec laquelle elle reprend même les dentelles, les motifs emblématiques ou héraldiques ornant certains bijoux, mais aussi pour sa capacité à percer et à rendre la psychologie de ses personnages. Elle devient ainsi la portraitiste préférée des grandes dames de son temps, mais elle reçoit également d'importantes commandes d'hommes influents et de lettrés. La ville de Bologne avait une attitude très ouverte à l'égard de l'activité féminine, que la plupart, à l'égard de l'activité féminine que la plupart des autres cités européennes. Son université fut ouverte aux femmes dès le XIIIe siècle. Le fonctionnement totalement atypique du couple Zappi-Fontana s'explique sans doute en partie par l'humanisme progressiste du milieu intellectuel et artistique bolognais. Je vous montre quelques portraits, mais en commençant par deux portraits du papa, de Prospero. À gauche, portrait d'une dame de 1570 qui est au musée de Bologne. Une femme, vêtue de trois quarts, est assise à côté de la fenêtre qui laisse entrer le jour éclairant ses épaules et son visage. Vêtue d'une gamura de velours vert aux détails dorés, ouverte jusqu'au sein, laissant voir une chemise blanche bordée de dentelles, la dame porte sur l'épaule gauche une zibeline avec une tête dorée et une chaîne. Vous voyez, avec la chaîne. Une gamura, c'est ce genre de robe qui laisse apparaître la chemise dans la partie supérieure, une robe longue. Ses cheveux sont retenus par un filet. Près d'elle se trouve une table avec un tapis rouge et un vase de fleurs, derrière lequel s'ouvre la perspective sur la pièce attenante où une servante cherche à ouvrir une fenêtre. Il y a un arrière-plan. Dans ce tableau, il est possible de déceler plusieurs influences. La composition générale reflète des références à l'école de Raphaël, mais l'étude soignée du décor et du personnage, avec le jour entrant par la fenêtre, pour souligner le visage et les détails du vêtement, démontre aussi une connaissance des gravures flamandes. Les détails des plantes font l'objet d'un traitement minutieux que l'on retrouve également dans d'autres œuvres. Ici, une petite nature morte de fleurs. Cette précision peut être attribuée à l'amitié entre Prospero et le naturaliste Ulisse Aldrovandi. Ce tableau est un modèle fondamental pour Lavinia, qui, dans ses portraits, adoptera le traitement flamand des détails, les effets de transparence des bijoux, la richesse des tissus, des jabots et des broderies, ainsi qu'un palais ou une belle demeure comme décor pour ses sujets. Et à droite, toujours de Prospero, le portrait du juriste Floriano Moratti, que je trouve absolument magnifique. avec ce grand rideau vert qui fait ressortir le visage. Et dans la partie supérieure, à gauche, il y a une très jolie nature morte, là, un détail. Essayez de retenir la composition de ce tableau du juriste, là, parce que Lavinia s'en inspirera un peu plus tard. De Lavinia, le portrait d'une dame jouant du clavicorde, qui est au musée de Valenciennes. Le livre du courtisan, rédigé par Baldassare Castiglione, consacre un chapitre entier à la femme idéale, énonçant toutes les qualités et les arts indispensables au courtisan, qu'il déclare également appropriés à la femme, à savoir une éducation poussée, savoir peindre, jouer d'un instrument et chanter, écrire des poésies, savoir mener une conversation spirituelle et intelligente. La diffusion de l'ouvrage, écrit à la cour d'Urbino en 1528 et imprimé à Venise et à Florence, a eu le mérite de faire voyager ses principes dans tous les États européens, ce qui a contribué à libérer les femmes de l'esclavage de l'analphabétisme et d'une éducation minimale. Dans ce petit portrait d'une dame jouant du clavicorde, Lavinia Fontana se sert du modèle codifié par Baldassare Castiglione. La femme tient à être dépeinte avec toutes ses vertus. Elle sait jouer d'un instrument, le clavicorde, et composer avec soin l'habit élégant qu'elle porte afin d'apparaître en tout point instruite et de bonne éducation. Les similitudes avec l'autoportrait à l'épinette accompagné de sa servante, l'autoportrait de Lavinia, permettent de dater ce portrait à la fin des années 1570. À gauche, le portrait d'une dame de qualité, qui est à Washington. Le chien sur les genoux est un symbole populaire de fidélité conjugale. Dans les portraits de cette période, on le retrouvera à plusieurs reprises. Il faut croire que toutes les femmes étaient d'une fidélité absolue à cette époque. La bonne société, évidemment. À droite, le portrait d'une dame de la famille Gonzaga, qui est à Londres. Vous voyez la richesse des décors, des robes, des dentelles, des parures, des broderies, etc. C'est pourquoi elle était tellement appréciée par les dames de la haute société de Bologne et ensuite de Rome. À gauche, le portrait d'un notaire et à droite, le portrait de Girolamo Mercuriale. Vous voyez, vous vous souvenez de ce portrait, j'avais attiré votre attention. Elle reprend un peu, de manière plus simplifiée, il n'y a pas tout le décor qu'il y avait autour, la composition de ce juriste par le tableau de son père. Girolamo Mercuriale est né en 1530 à Forlì et mort en 1606 à 76 ans dans la même ville. C'était un médecin et un philologue italien. Un tableau tout à fait étonnant et rare dans sa composition aussi, un nouveau-né dans un berceau qui est au musée de Bologne. Dans les années 1580, Lavinia commence à s'intéresser également au monde de l'enfance. Cette toile représente un royal chérubin gisant dans un berceau richement ornementé, enveloppé de langes et orné d'un collier. Avec cette œuvre, Lavinia invente une toute nouvelle iconographie illustrant un âge de l'homme, le matin de la vie, auparavant ignoré. Une composition quand même très, très originale et très surprenante, c'est très très beau, c'est très beau ce portrait d'enfant. Le portrait de la famille Gozzadini de 1584. C'est un tableau assez grand, hein, 2,50 m sur 2 mètres à peu près, qui est à Bologne. Ce portrait d'une riche famille de la noblesse de Bologne recèle une signification cachée. Au premier plan, apparaissent les deux sœurs Gozzadini, Ginevra à gauche et Laodomia à droite. Au centre, leur père. Sur les côtés, les maris respectifs des deux sœurs. Le père avait promis toute sa fortune à la première de ses filles qui aurait un héritier masculin. Ce fut Ginevra, celle qui est à gauche. Laodomia a commandé ce tableau pour laisser une image de la rivalité avec sa sœur. Le père tient la main de la gagnante. Laodomia a également demandé à l'artiste de représenter sa sœur laide. Et vous voyez, la petite chienne, et on sait que c'est une petite chienne parce qu'elle porte des boucles d'oreilles et un collier. Les détails sont époustouflants. Toutes ces petites chiennes sont adorables, ces petits chiens. Les détails sont superbes. Portrait d'une dame avec son chien, encore une qui est très fidèle, qui est au musée d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce portrait d'une dame montre la technicité de Fontana, sa maîtrise du traitement de la dentelle des bijoux et sa compréhension intuitive de la structure de la composition qui provient de l'observation de la statuaire antique. Il y a encore le petit chien, mais tout ça pour dire que elle, dans sa posture, elle est extrêmement présente et elle doit s'inspirer, Lavinia a dû s'inspirer d'antique pour consolider sa composition et accentuer la présence des personnages, des personnes qu'elle représentait. Un portrait d'Isabella Ruini en Vénus et Cupidon à gauche, au musée de Rouen. Vénus, déesse de l'amour, tient dans sa main droite une flèche lancée par Cupidon et de l'autre, les fleurs s'ajoutent. Ce thème très courant à l'époque permet à Lavinia de traiter la nudité féminine avec délicatesse. Vénus est vêtue d'un voile et porte des bijoux qui pourraient être ceux d'une femme noble du XVIe siècle. Cette toile représente Isabella Ruini sous les traits de Vénus. Il a été possible d'identifier Isabella grâce à un dessin représentant l'aristocrate exécuté par Cristofano dell'Altissimo qui est conservé au Palazzo Pitti à Florence. Elle porte une chemise légère, des bijoux et un collier de perles. La relation entre Ruini et Lavinia s'est poursuivie au-delà de ce portrait exécuté peut-être en vue d'être envoyé à son futur époux, comme le suggère la représentation en déesse de l'amour. À la suite de ce portrait, Fontana a réalisé d'autres portraits de la noble dame, parmi lesquels l'huile sur toile datée de 1593, qui est à droite, conservée à la galerie palatine du Palazzo Pitti. Sur cette toile, la marquise est représentée vêtue d'un habit richement décoré et parée de bijoux précieux, rendus avec une extraordinaire précision. On peut reconnaître la même parure de perles sur les deux portraits. Portrait de Costanza Alidossi, qui est à Washington. Costanza Alidossi appartient à la noblesse de Bologne. Son mari, Ridolfo, est un sénateur en relation avec les Médicis. Aux somptueux vêtements toujours présents sur les portraits, s'ajoute ici le fauteuil en bois et une nature morte florale posée sur une table. L'arrière-plan n'est plus uniformément sombre comme dans les portraits plus anciens. C'est un tableau, celui de droite, que vous devez connaître si vous êtes allé au musée du château de Beau, où il est conservé. Cet enfant est atteinte d'hypertrichose, c'est une pilosité excessive. Maladie génétique liée à un dérèglement hormonal transmis par son père. Son père, Pedro González, que vous voyez à gauche, est originaire de Tenerife, la plus grande île de l'archipel des Canaries. Très jeune, il fut offert en cadeau au roi de France, Henri II. Il constituait une curiosité pour la cour. On procura à Pedro, qui parlait sans doute latin, une femme, Catherine, qui n'avait aucune pilosité anormale, vous pouvez le constater sur la photo de gauche. Le couple eut plusieurs enfants et Pedro González a transmis cette maladie à Antonieta ainsi qu'à son frère Horacio. À la mort de Catherine de Médicis en 1591, Pedro et sa famille sont disgraciés puis admis 2 ans plus tard à la cour des Farnèse à Parme. Sur le tableau qui a été réalisé pendant ce séjour à Parme, Antonietta, à une dizaine d'années, porte un superbe vêtement caractéristique des cours italiennes. Sur le document qu'elle montre figure un résumé de son histoire. Je vous donne la traduction en français, un petit peu complétée. Don Pietro, un homme sauvage découvert dans les îles des Canaries, a été conduit chez son Altesse Sérénissime Henri, roi de France, et de là chez son Excellence, le duc de Parme. C'est de lui que je suis issu, moi, Antonietta, et que l'on me trouve aujourd'hui la cour de dame Isabella Pallavicina, l'honorable marquise de Soragna. La marquise était l'une des dames les plus cultivées et raffinées de son temps. Elle aimait surtout la poésie et des auteurs comme le Tasse, auteur de la Jérusalem libérée, daté de 1581. Portrait de cinq femmes avec un chien et un perroquet de 1603. Alors c'est un portrait qui a été réalisé à Rome. S'agit-il d'une mère exigeante trônant entre ses quatre filles ou d'une grande dame avec ses quatre demoiselles d'honneur? Toujours est-il que les jeunes filles portent la même tenue tandis que la personne de qualité est vêtue d'une robe sombre et flanquée d'un chien et d'un perroquet. Les deux demoiselles de gauche lui tendent une coupe remplie de fleurs et un double collier de perles. La troisième, légèrement à droite, derrière la dame principale, pique une fleur dans ses cheveux. La dernière, qui fait exception par sa posture et sa physionomie, tient d'une main un diadème avec des perles et de l'autre la poignée du tiroir à bijoux. À son regard, en biais vers la troisième, il semble bien y avoir une tension entre elles, comme si la dame avait préféré orner ses cheveux de fleurs plutôt que de perles. Cette intrigue minime semble destinée à mettre un peu de piment dans une composition extrêmement symétrique par ailleurs. Décidée à mener une carrière égale à celle d'un homme, Lavinia aborde la peinture religieuse en utilisant les thèmes les plus courants à l'époque. L'accès au genre le plus prestigieux représente un exploit tout à fait exceptionnel pour une jeune femme de moins de 30 ans. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le grand genre consiste à réaliser des compositions complexes avec plusieurs personnages sur des thèmes bibliques, religieux, mythologiques ou historiques. La hiérarchie des genres sera fixée par André Philibien en 1667. Il y a en haut le genre noble ou le grand genre qui est le genre le plus respecté. En dessous le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte, qui est le type de peinture, le genre de peinture le moins bien considéré. Lavinia Fontana, issue d'un milieu artistique et ayant fréquenté les Caracci et Giorgio Vasari, est une des rares femmes disposant du bagage culturel permettant l'accès aux thèmes mythologiques et religieux. Cet aspect de son œuvre se rattache également au courant maniériste par la recherche esthétique des postures et des personnages, d'une élégance raffinée mais artificielle et les contrastes de couleurs vives. En 1577, elle peint une Sainte Famille. Je n'ai pas trouvé de représentation, de photo. Puis en 1580, la scène de Noli me tangere, que vous voyez à gauche. Je l'ai confrontée avec un tableau de Brandino qui a été réalisé bien avant. Noli me tangere, ne me touche pas, sont les paroles prononcées par Jésus-Christ ressuscité le dimanche de Pâques à l'adresse de Marie-Madeleine. Cette scène du Nouveau Testament était couramment traitée par les peintres au XVe et XVIe siècle. Le Christ très atypique, celui de Lavinia, entièrement habillé et portant chapeau, résulte des limites imposées aux femmes qui ne pouvaient étudier l'anatomie masculine. Alors, elle l'a habillé complètement. Le maniérisme très retenu de Lavinia est à comparer à celui très appuyé d'Agnolo Bronzino pour le même sujet. Le contraste est quand même saisissant. Vous voyez les dates aussi, il y a 20 ans d'écart. Hein. De son vivant, l'artiste a joué d'une grande popularité et son succès grandissant à Rome. Le nouveau pape, Grégoire XIII, bonne compagnie, remarque les œuvres religieuses de Lavinia et la prend sous sa protection. Il lui confie la réalisation de retables et lui demande même de faire son portrait, que vous avez sous les yeux. On la surnomma Pontificia Pittrice, peintre pontifical. Elle a exécuté de nombreuses autres œuvres pour l'entourage de la cour papale, qui comprenait des diplomates et des nobles. En 1584, le conseil d'Imola, la charge de décorer la chapelle du magistrat dans le palais communal, pour laquelle elle réalisera l'Assomption de la Vierge de Ponte Santo avec les saints Cassien et Pierre Chrysologue. C'est un tableau qui est à la Pinacothèque d'Imola, qui est à gauche, le tableau. Ce travail demandait une attention et une responsabilité particulière, car il s'agissait de copier la Vierge Immaculée qui se trouvait sur un pilastre près de Ponte Rocco. L'image faisait l'objet d'une dévotion populaire et de miracles tellement prodigieux qu'il fallut instituer un tribunal ecclésiastique pour contrôler la véracité des faits. On remarquera la répartition du monde céleste et de l'espace terrestre et une vue savante de la ville d'Imola dans la partie inférieure. Alors évidemment, on ne voit pas les détails, mais ça doit être extrêmement fin, mais il faudrait aller voir l'original. À droite, une consécration à la Vierge, qui est un tableau qui se trouve à Marseille, qui aussi appartenait à la collection Campana, collection dont je vous ai parlé il y a au moins une dizaine d'années. Ce tableau commémore sans doute la consécration mariale des quatre enfants présents. En haut de l'image, la Vierge est représentée appuyée sur un épais nuage, elle est entourée d'un halo de lumière jaune et d'un cercle de têtes de chérubins. De part et d'autre, des anges musiciens. Deux femmes sont peintes, agenouillées devant Marie. La figure de gauche, une sainte couronnée. Alors, je n'ai pas trouvé l'identification d'aucun des personnages de la partie inférieure. Alors, cette sainte couronnée, j'ai pensé que ça pouvait être Hélène, la mère de Constantin Ier, premier empereur chrétien de Rome, qui a découvert la vraie croix. Elle tient la croix. Alors, je me suis appuyé sur ce détail de la peinture. Peut-être est-ce elle, mais je n'en suis pas sûr, je n'ai pas trouvé de confirmation. Donc, cette sainte couronnée reçoit le flot de lumière entourant la Vierge. Elle intercède auprès de la Vierge en faveur des quatre enfants, tandis que la femme de droite semble couverte d'ombre, ainsi que l'agneau qu'elle tient dans ses bras. Pas d'identification pour cette personne. En bas à droite du tableau, un saint évêque, je ne sais pas qui c'est, qui offre la communion à deux fillettes agenouillées. Un autre saint, en costume romain, j'ai essayé de retrouver avec cette histoire de clé. Bon. Il tient une clé, la palme des martyrs, son pied droit est posé sur la tête d'un chien blanc. Il est très beau, le tableau, mais je n'ai pas trouvé d'interprétation des personnages. Il fait face à deux jeunes garçons en prière. Dans la partie supérieure appartenant au monde céleste, tous les personnages sont regroupés autour de la Vierge à l'enfant. Ils sont représentés dans des postures souples et peints de couleurs pastel. Dans la partie inférieure, le monde terrestre, les six personnages sont presque tous debout, donnant une impression de verticalité et leurs vêtements sont de couleurs vives, bleu, rouge, jaune, vert, or, blanc. On peut résumer la composition d'ensemble à un cercle. Vous voyez ce cercle dans la partie supérieure, le monde céleste. Soutenu par des piliers, ces personnages verticaux là, semblent soutenir. C'est une interprétation personnelle de cette composition circulaire qui est dans la partie supérieure. En 1600, on lui commande un grand tableau d'autel, la vision de Saint Hyacinthe, pour l'église Sainte-Sabine de Rome, la commande à une femme d'une œuvre de cette importance déclenche une polémique. Le tableau est cependant un succès, à tel point qu'en 1603, Lavinia s'installe à Rome. Elle est reçue en audience par le pape Clément VIII, Aldobrandini. Elle peindra pour lui sa plus grande composition, environ 6 mètres de large, un retable représentant la lapidation de Saint-Étienne. Cette œuvre gigantesque ornée la basilique Saint-Paul hors les murs, qui sera entièrement détruite dans un incendie en 1823. En 1604, à 52 ans, Clément VIII la nomme peintre de la cour pour son talent de portraitiste, distinction unique pour une femme du XVIe siècle. Lavinia Fontana fut élue à l'Académie Saint-Luc de Rome, ancienne appellation des Académies des Beaux-Arts, encore une exception. Les deux portraits suivants étaient réalisés à Rome. Ici, le portrait d'un homme assis feuilletant un livre. Une tentative d'identification avait été proposée, mais elle a été refusée depuis. Et ce très beau portrait se trouve à Bordeaux. Eh oui. Et ce magnifique portrait de famille, portrait de Bianca Delli Utili Maselli, entouré de ses enfants de 1604-1605, qui est dans une collection particulière. Ce portrait d'une extrême finesse d'exécution est une des rares œuvres connues de Lavinia Fontana au tout début du XVIIe siècle. Bianca Delli Utili, épouse de Pierino Maselli, appartient à la noblesse et apparaît ici avec 6 de ses enfants, 5 garçons et une fille. Le portrait constitue un témoignage remarquable de la mode de l'époque. Bianca mort peu après la réalisation du tableau, en septembre 1605, à 37 ans, après avoir donné naissance à son 19e enfant. La composition symétrique oppose les 3 enfants de gauche, constituant un ensemble pyramidal, et les 3 enfants de droite, plus dissipés et servant à animer le tableau. On remarque les chevelures rousses de Bianca et des enfants de gauche. Ce qui frappe au premier regard, c'est la grande unité chromatique de ce tableau et le sérieux des personnages. Un sérieux toutefois tempéré par les postures des 3 garçons de droite qui suggèrent des tentations de dissipation. Rien de tel à gauche de la toile où, comme leur mère, les 2 garçons et la petite fille fixent le spectateur sans broncher, contrairement aux garçons de droite. En observant avec attention ce tableau, on se rend compte que les 5 garçons sont tous habillés de façon identique, d'un habit, probablement du brocart, de belle facture. Quant à la mère et à la fille, elles sont vêtues de brocart d'une plus grande richesse en termes d'ornementation et leurs habits sont rehaussés par des bijoux de qualité, colliers de perles, boucles d'oreilles en or, bracelets et bagues. L'artiste a représenté les détails vestimentaires et les bijoux avec une méticulosité extrême. Tous portent la fraise. L'observation détaillée de la toile nous montre en outre qu'à l'exception de l'un des garçons, dont on ne voit pas les mains. Alors, oh, celui-ci, c'est le seul dont on ne voit pas les mains. Les 4 autres frères sont tous porteurs d'un accessoire. L'un, en haut à droite, est doté d'une médaille accrochée à une chaînette, une médaille de chevalier, ce qui suggère qu'il devrait hériter du titre de son père. Ici, celui-là, oui, médaille de chevalier. Un peu plus bas, un autre garçon est muni d'un encrier et d'une plume. Serait-il destiné à une fonction de notaire ? Celui-ci. Côté gauche, le frère aux magnifiques cheveux bouclés est doté d'un oiseau maintenu par un cordon. Un expert y voit un chardonneret, symbole de la passion du Christ, ce qui le conduit à penser que cet enfant est destiné à une carrière religieuse. Chardonneret. Quant au petit garçon roux de gauche, il tient une simple coupelle de fruits, probablement confit dans la tradition romaine. Son orientation professionnelle n'a pas pu être déterminée. Oui, il tient une coupelle de fruits, là. Seul le garçonnet masqué par sa mère, celui qui est derrière, là, à droite, a été privé d'attributs. Il se distingue en se penchant vers l'oreille de son petit frère. Il joue ici le rôle de l'élément perturbateur. L'unique fille de la bande, identifiée par son prénom, Virginia, tient dans ses menottes d'un côté l'index droit de sa mère, de l'autre, la patte droite du petit chien. Voilà. Ah oui, le nom est écrit ici, là, juste au-dessus. Virginia. Ce tableau de Lavinia Fontana a été vendu à New York par Sotheby's le 26 janvier 2012 à un collectionneur privé pour une somme de 602 500 euros. La cote de Lavinia est assez bonne. Voici maintenant quelques scènes bibliques ou religieuses. Il n'y a pas de chronologie précise. À gauche, le Christ avec les instruments de la Passion, de 1576. À droite, le mariage mystique de Sainte Catherine d'Alexandrie. C'est une acquisition récente du musée de Melbourne, date de février 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Cette petite huile sur cuivre, à droite, doit être une œuvre de jeunesse de l'artiste. La signature sous son nom de jeune fille, inscrite en bas à droite de la composition sur la roue dentée du supplice de Sainte-Catherine, correspond à celle utilisée avant son mariage avec le peintre Giampaolo Zappi en 1577. Alors, la signature se trouve ici, mais on ne la voit pas bien. Le tableau de Melbourne présente une mise en scène assez simple. Les têtes des quatre personnages, aisément identifiables, sont disposées selon une oblique descendante qui mène à la figure de la Sainte Martyre agenouillée. Vous voyez, on parle de Joseph, Marie, Jésus et puis Sainte Catherine. Un groupe d'anges assiste à la scène. À l'arrière-plan, la porte s'ouvre sur des jardins. À gauche, la galerie laisse voir un paysage montagneux. Une autre anecdote aussi, il existe une autre version de ce tableau, mentionnée dans la collection bavaroise du duc de Leuchtenberg en 1845. Ce duc de Leuchtenberg n'est autre que le petit-fils d'Eugène de Beauharnais. Les noces de Cana. C'est une œuvre, un petit tableau sur cuivre, là aussi, de 47 cm sur 36. Et à droite, c'est le dessin préparatoire qui a été acquis en janvier 2023. Le musée Getty, qui possédait le petit tableau sur cuivre, a réussi à acheter le dessin préparatoire, ce qui est très intéressant et important pour eux, d'avoir réuni les deux œuvres. Ce dessin pour les noces de Cana, daté des années 1575-1580, permet d'évoquer le début de la carrière de Lavinia, révélant à la fois sa technique de travail et ses sources d'inspiration. Elle reprend ici une composition dessinée par Giorgio Vasari. Son père Prospero collabora avec le maître toscan, notamment à Florence. Il est donc logique que sa fille ait eu accès à certaines esquisses. La feuille acquise par le Getty avait d'ailleurs été attribuée à Vasari lorsqu'elle était sur le marché de l'art en 2020. Lavinia Fontana se distingue néanmoins de son modèle en préférant un format vertical et elle a ajouté diverses figures. Lavinia a transféré son dessin directement sur le support en cuivre. On peut noter toutefois quelques différences entre la feuille et la peinture. À gauche, une Vierge du Silence, encore une huile sur cuivre de 28 cm sur 21, qui est à Liverpool. Cette figure de la Vierge est inspirée d'un dessin de Michel-Ange, source de plusieurs peintures au XVIe siècle. Le Christ enfant endormi sur les genoux de sa mère préfigure une Pietà. Et je l'ai confronté. Là encore, avec un tableau de Daniolo Bronzino, qui représente une sainte famille, qui a été réalisé aussi, lui aussi 40 ans avant. Hein, vous voyez la différence. Le tableau de Bronzino représente la sainte famille Panciatichi. C'est quand on donne un nom comme ça, c'est le nom des propriétaires qui possédaient le tableau à une certaine époque. Actuellement, le tableau est aux offices. On voyait quand même la proximité des deux compositions maniéristes. À gauche, une présentation de Jésus au temple. On peut remarquer une grande variété dans la posture des personnages. Et à droite, l'adoration des mages, une huile sur cuivre aussi de 45 sur 36, qui est au musée de Cherbourg. Cette scène biblique très souvent traitée permet à Lavinia Fontana de déployer tout son savoir-faire dans une composition complexe. Le contre-jour inonde l'ensemble d'une lumière presque nocturne qui met en valeur l'exceptionnel talent de coloriste de l'artiste. La composition est très élaborée et dynamique. La scène biblique est rassemblée dans l'angle inférieur gauche. Un mage s'apprête à baiser un pied de Jésus. Un autre, qui vient de descendre de son cheval, offre des présents à Joseph. Le troisième mage, un jeune noir, Balthazar, arrive à cheval. Vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est très animé. Il y a ce premier mage qui est arrivé le premier, qui s'agenouille devant Jésus et qui s'apprête à lui baiser les pieds. Le deuxième, qui est arrivé juste après et qui offre des présents à Joseph. Et puis le troisième, qui est sur son cheval, où est-ce qu'il est, là-haut ? Oui, il est là, Balthazar, qui arrive le dernier. Donc on a, d'habitude, dans les adorations des rois mages, ils sont tous agglutinés autour de Jésus en train de le vénérer. Alors que là, on a une composition très dynamique avec les trois mages qui sont en trois positions différentes et on voit quel est le premier qui est arrivé, le deuxième et le troisième. C'est très très bien fait. Détail pittoresque, dans l'angle inférieur droit, un nain tenant une épée joue avec des chiens. Ce qui est très intéressant, c'est le mouvement qui est décomposé entre les trois mages. Le Christ à la colonne est au musée de Bastia. L'une des curiosités du fonds Fesch à Bastia est un Christ à la colonne conservé dans les collections du musée municipal, l'ancien palais des gouverneurs génois. À part la position des pieds, la composition reprend intégralement celle d'un tableau de Federico Zuccari, conservé au musée Albani d'Urbino. Cette toile appartient probablement à la période romaine de Lavinia, époque où elle cherche à se dégager de sa culture maniériste et où, peintre de son temps, elle oublie Raphaël et assiste au triomphe de l'humanisme caravagesque. Alors, il y a un fonds Fesch à Bastia, mais il y a aussi à Ajaccio le musée Fesch, où il y a l'essentiel, une grande partie de la collection du cardinal Fesch, qui était le tonton de Napoléon, qui a laissé une grande partie, toute une histoire très compliquée là encore. Judith avec la tête de Loferne à gauche, qui est au musée de Bologne. Alors c'est à Maria Teresa Cantaro que l'on doit la découverte de la signature et de la date de Lavinia Fontana des Apis, elle a mis le nom de son mari, Fécit 1600. Le premier plan est occupé par Judith qui tient une épée dans une main et de l'autre la tête de Loferne. Au second plan, la servante tient le panier qui recueillera la tête du général de Nabucodonosor pour la porter en triomphe dans la ville de Béthulie. Avec cette toile, Lavinia affiche toute sa maturité artistique. Elle parvient à interpréter l'intense état psychologique de Judith en y associant une remarquable précision dans les détails. La parure de pierre précieuse que porte la protagoniste est particulièrement réussie. Judith se montre fière, sûre d'elle et esquisse un léger sourire témoignant de la satisfaction d'avoir accompli sa mission. Par ailleurs, le rendu raffiné des pinces à cheveux, des boucles d'oreilles et du pendentif accompagne élégamment le voile de la manche orné d'une broderie de petites perles sophistiquées. Le pendentif précieux est identique à la version réalisée pour Dinosaurata. Dinosaurata, c'était la propriétaire du second tableau à droite. Vous voyez, le bijou est le même. Ce petit bijou qui est là, on devine un paon avec la queue ouverte. Et on retrouve le même bijou ici sur la poitrine, toujours de l'autre Judith. Le bijou est composé de pierres précieuses et de perles et comporte en son centre un paon dont la roue est en filigrane. Un thème récurrent dans l'iconographie du XVIe siècle, il symboliserait la générosité et la loyauté et a peut-être été utilisé pour rendre hommage aux qualités de l'éventuel client. Une Judith décapitant Holoferne avec une grande maîtrise. Alors, vous vous souvenez qu'Artémisia appréciait beaucoup ce thème, et elle se vengeait un peu de ce qu'elle avait vécu dans sa jeunesse, parce qu'elle avait été violée par l'un des élèves de son père. Mais Lavinia n'a pas subi le même sort, heureusement pour elle, mais elle appréciait aussi beaucoup ce thème, comme vous pouvez le constater. À gauche, une Judith décapitant Holoferne. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est une composition que l'on retrouvera chez Artémisia, cette composition en particulier, qui est très différente de la précédente, évidemment. Et à droite, le portrait d'une dame en Judith, qui est au musée de Cracovie. Étant donné la ressemblance avec l'autoportrait à l'épinette de l'Académie Saint-Luc à Rome, il s'agit certainement d'un autoportrait de Lavinia. Le premier représenté, c'est-à-dire l'autoportrait à l'épinette, représentait une jeune femme de 25 ans, et le portrait de dame en Judith, que vous avez sous les yeux, représente une femme d'une cinquantaine d'années. Dans cette version, l'héroïne est représentée à partir de la taille, habillée avec élégance et portant deux rangs de perles, des symboles évidents du rang social de la peintre qui jouissait d'une renommée sans égale à Rome au début du XVIIe siècle. La tête macabre de l'Holoferne en bas à droite est un contrepoint frappant et dramatique, tout comme l'épée tachée de sang que Judith brandit avec détermination. Visite de la reine de Saba à Salomon. Alors, la composition élaborée de cette toile et caractère narratif apparaît comme très ambitieuse. Vous voyez, il y a de nombreux personnages, les détails sont extraordinairement recherchés dans les broderies, les vêtements, les parures, les fraises, les bijoux, etc. Enfin, il y a un travail phénoménal. Et la position est complexe parce qu'il y a de nombreux personnages qui sont tous plus ou moins de positions différentes. Et puis il y a ce nain au premier plan qui anime un peu la composition. Quelques scènes mythologiques maintenant. Fait encore plus remarquable, elle peint entre 1585 et 1613 des tableaux mythologiques. Ce sont les premières toiles de femmes nues peintes par une femme. Dans ses représentations des récits mythologiques, Lavinia Fontanet n'hésite pas à peindre des drapés transparents et même la nudité, et ce malgré les conventions sociales et le fait que les femmes artistes aient pu avoir la réputation d'être immorales. Lavinia Fontana aurait été la première femme à peindre des nus féminins et peut-être même la première à utiliser des modèles féminins vivants, à une époque où l'on pensait encore que le nu pouvait choquer l'esprit des femmes. Vous avez sous les yeux l'allégorie de la prudence, mais en réalité il s'agit d'une association de plusieurs allégories. Alors, l'allégorie de la prudence est... C'est une des quatre vertus cardinales. Elle se reconnaît au fait qu'elle porte le miroir et le serpent. C'est l'attribut de la prudence traditionnelle. Et il y a aussi deux des sept arts libéraux. Ici, la géométrie et l'astronomie. Donc, dans ce tableau, en réalité, il y a plusieurs allégories qui sont associées. On remarque de nombreux éléments de décor et de bijoux. Le reflet dans le miroir permet d'admirer le dos de la déesse. On constate cependant une certaine maladresse dans la représentation des seins. Je ne sais pas où elle a trouvé les modèles. Les draperies rouges, orangées et bordées de passementeries dorées envahissent la toile. Mars et Vénus, qui est au musée de Madrid. Malgré le geste un peu familier de Mars, il semblerait, d'après les archives que j'ai consultées, que Vénus n'ait pas déposé plainte auprès de MeToo. Elle semble assez consentante et prête à céder au charme de Mars. Il ne faut pas oublier que c'est une relation adultérine, hein, parce que le mari de Vénus, c'est Vulcain, qui n'est pas au courant, mais il lui réservera une surprise plus tard. Cette toile apporte la preuve que Lavinia semblait avoir aussi une bonne connaissance de l'anatomie masculine. Apollon et les muses au mont Parnasse, on remarque Pégase en haut à gauche avec tout un tas de muses qui sont pour la plupart musiciennes. C'est pour ça qu'il est sans doute assez, je n'ai pas étudié, assez difficile d'attribuer une identité précise à chacune des muses. Alors ce tableau est plus célèbre, mais moins célèbre pardon, que le tableau qui va suivre, simplement sans doute parce qu'elle est, malgré tout vêtue d'un voile. le tableau s'intitule « Minerve dénudée », et Minerve ou Athéna a retiré son armure et s'apprête à revêtir une robe, un léger voile recouvre son corps, mais elle n'est pas totalement nue. En revanche, ici, le tableau s'intitule Minerve s'habillant. Il n'est pas surprenant que l'une de ses œuvres les plus célèbres soit le tableau de Minerve en train de s'habiller, conservé à la Galleria Borghese à Rome. Dans ce tableau, considéré par certains comme son apogée artistique, la célèbre déesse est représentée nue, regardant le spectateur alors qu'elle s'apprête à revêtir une robe. Au cours de l'histoire, Minerve avait rarement été représentée sans son voile. La mythologie permet de représenter la nudité des corps, mais peindre un nu, même féminin, était extrêmement osé pour une femme de cette époque. Cette toile constitue donc une rareté. Attribuée avec certitude à Lavinia Fontana grâce à la découverte d'un document et à la restauration d'Alvaro Esposti, qui en nettoyant la toile, là aussi, a découvert une inscription fragmentaire près du pied de l'Angelot, Faciebat 1613. Située dans une salle d'un palais, la scène représente Minerve qui vient de déposer ses armes pour revêtir une robe de femme. Situation assez inhabituelle pour elle. À l'arrière-plan, on aperçoit au fond de la perspective le bâton, l'olivier et la chouette perchés sur le balcon, les attributs habituels de la déesse. Elle regarde en direction du spectateur, tandis que les emblèmes symbolisant ses vertus, le bouclier, le haume et l'épée, sont disposés de façon à renvoyer la lumière. À droite, dans la photo de droite, le restaurateur est en train de travailler avec soin sur une partie délicate de la déesse. On a l'impression qu'il est en train de lui chatouiller l'air. Il a l'air de prendre beaucoup de plaisir. Encore une composition assez osée, quasiment incestueuse entre Vénus et son fils Amour. C'est quand même très osé pour l'époque, quoi. Deux nudités, quand même. C'est assez étonnant. Un portrait de Cléopâtre, tout à fait différent du tableau précédent. La reine d'Égypte a souvent inspiré les peintres, celle de Lavinia Fontana est tout à fait atypique et son accoutrement ne correspond en rien aux vêtements d'Égypte antique. Les peintres de cette époque n'étaient pas des historiens et choisissaient dans leur environnement les accessoires de leur modèle. Le portrait de Cléopâtre a été traité avec un fond sombre, la vue de profil permettait aisément de solenniser le personnage en lui ôtant toute caractéristique psychologique. Le voile relevé sur le visage et son drapé joue un rôle essentiel dans la remarquable réussite picturale de cette composition. Le catalogue des œuvres de Lavinia comporte plus de 130 tableaux et dessins. C'est le plus grand corpus de peinture connu pour une femme avant le XVIIIe siècle. En conclusion, femme de caractère, capable de créer des œuvres d'une grande valeur dans différents genres picturaux, Lavinia a su répondre à la commande publique comme privée. Son succès ne s'est pas démenti et il s'est confirmé par l'élection de l'artiste à l'Académie Saint-Luc de Rome, une première pour une femme. Dans les dernières années de sa vie, Lavinia Fontana connut une crise mystique qui, en 1613, la conduisit à se retirer au monastère della Filio Lanza della Religione. Elle est décédée à Rome le 11 août 1614, entourée des trois enfants survivants sur les 11 qu'elle avait mis au monde. Elle a reçu une sépulture digne des plus grandes dans la prestigieuse église Santa Maria sopra Minerva à côté du Panthéon. Dans cette église, on peut admirer une sculpture en marbre de Michel-Ange représentant un Christ rédempteur qui n'est pas forcément l'œuvre la plus réussie de Michel-Ange. Cette femme peintre extraordinaire qui a laissé un important patrimoine artistique était en avance sur son temps et s'est imposée comme une référence évidente pour d'autres peintres. Alors, j'en ai fini avec Lavinia, mais je voudrais garder encore 5 ou 6 minutes, montre en main, pour vous parler de deux autres femmes peintres qui ont repris leur place dans l'histoire de l'art. Georgiana Houghton, 1814-1884, et Hilma af Klint, 1862-1944, deux femmes peintres qui ont pratiqué l'abstraction avant Kandinsky, qui est probablement un usurpateur. Bien que ce soit hors sujet, car il n'est plus question d'Italie, je voudrais terminer en revenant à l'époque moderne. Nous avons évoqué la vie et l'œuvre de deux femmes artistes de la Renaissance italienne qui avaient été oubliées par l'histoire de l'art. Je voudrais évoquer deux autres femmes peintres, longtemps oubliées, qui doivent reprendre leur place dans l'histoire de l'art, Hilma af Klint et Georgiana Houghton. Les recherches des historiens permettent de réécrire partiellement l'histoire de l'art et bouleversent parfois certains événements que l'on croyait établis. Pendant longtemps, il était dit que Vassili Kandinsky, 1866-1944, était le créateur de l'art abstrait avec une aquarelle datée de 1910, que vous avez sous les yeux. Or, les spécialistes pensent que maintenant, que l'artiste a intentionnellement antidaté son dessin, qui daterait en réalité de 1913. Ce ne serait pas très grave si des chercheurs n'avaient pas découvert qu'une femme peintre, Hilma af Klint, 1862-1944, est d'origine suédoise, a pratiqué l'art abstrait 5 à 6 ans avant Kandinsky, ce dernier devenant alors un usurpateur. Voilà, vous voyez une série de toiles abstraites de Hilma. On ne peut s'empêcher, en regardant certaines de ses œuvres, de faire des rapprochements avec celle du peintre suisse Paul Klee, une autre comparaison. Mais je confronte un tableau d'Hilma af Klint, qui est d'un modernisme effarant, de 1915 à gauche, avec un tableau de Klee qui est de 1930. Le tableau d'Hilma af Klint est saisissant, quoi. En 2019, donc très récemment, le Guggenheim Museum de New York lui a consacré une exposition personnelle à Hilma af Klint. Plus de 600 000 visiteurs se sont rendus entre ses murs afin de découvrir la première rétrospective de l'artiste, battant ainsi le record de fréquentation du musée pour une exposition temporaire. Et pour cause, la peinture de cette Suédoise, née au milieu du XIXe siècle, composée de motifs abstraits, symboles ésotériques, fortement inspirés par son intérêt pour la théosophie et le spiritisme, lui vaut aujourd'hui d'être considérée comme la mère de l'art abstrait. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Hilma af Klint n'était pas la première à avoir travaillé dans ce champ pictural. D'autres chercheurs ont découvert qu'une artiste britannique, Georgiana Houghton, 1814-1884, avait créé des œuvres abstraites dès les années 1860. 1860, c'est le début de l'impressionnisme. Née près de 50 ans avant son aînée, Georgiana Houghton, une Britannique, a ouvert une voie similaire en pleine époque victorienne. Sous le choc de la mort de sa sœur, la jeune femme cherche à trouver les réponses à ses interrogations en entrant en contact avec les esprits avant de transcrire graphiquement et textuellement leurs échanges au recto de ces denses aquarelles sur papier, des lignes sinueuses, spirales et arabesques colorées aux airs de fleurs composent des paysages fantasmagoriques, parfois peuplés de figures mystiques et religieuses comme des archanges. Ici, à droite, c'est une composition avec le portrait de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout autour, c'est abstrait, mais après, elle va se libérer, elle va faire des œuvres totalement abstraites. Elle commence la création de ses images spirituelles avec le dessin, puis elle utilise l'aquarelle. Elle travaille avec un processus automatique, où elle se laisse guider par des influences spirituelles lors de séances, une démarche reprise par les surréalistes au XXe siècle. Ses premières œuvres ont comme sujet des fleurs et des fruits extrêmement stylisés en raison de la formation artistique que les femmes de classe bourgeoise reçoivent à l'époque. Au fil de ses expérimentations stylistiques, elle choisit l'abstraction complète près de 50 ans avant Kandinsky et Malevitch. Son choix de travailler avec des formes abstraites découle du côté spirituel de ses œuvres. Elle n'illustre pas des formes du monde physique, mais une expérience spirituelle invisible et subjective, ce qui est difficilement représentable avec des objets naturels. Le concept d'abstraction n'est pas dans le vocabulaire de l'époque. Il n'apparaîtra qu'au XXe siècle. Le public du XIXe siècle ne sait donc pas comment interpréter ce type d'image et les critiques de ses œuvres sont mitigées. Tout au long de sa carrière, ses compositions se complexifient. Elle incorpore de plus en plus de formes, de couches et ajoute de plus en plus de détails. À l'heure des débuts de l'impressionnisme, l'œuvre habitée de Georgina Houghton dénote dans le paysage artistique, si bien que sa grande exposition personnelle en 1871 à Londres fait un fiasco financier où seule une œuvre est vendue sur les 155 aquarelles présentées. L'artiste interrompt sa pratique jusqu'à sa mort en 1884 et tombe dans l'oubli avant d'être redécouverte en 2015. Un intérêt récent qui confirme le retour en grâce d'une peinture spirituelle novatrice longtemps écartée des courants officiels. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute.
Bien, merci Jean-Louis de cette fort intéressante conférence. J'ai une question. J'ai perdu le nom de la sœur, de la petite sœur là qui.
Plautila.
Plautila. Comment ça s'est passé quand même? Tu l'aurais peut-être dit si tu le savais, c'est une question un peu complexe. Mais par rapport au. Comment ça s'appelle? À la corporation des peintres, comment pouvait-elle vendre en n'ayant pas. Cette formation et ce label de la corporation, ce droit.
Mais c'est une bonne sœur, hein. elle vendait en circuit fermé pratiquement.
Bon, la réponse est à dire. Y aurait-il d'autres questions?
Comment?
Tu parleras, les micros entendront et je passe le micro aux gens qui.
Bon, après la découverte de la Vigna, c'était très varié. J'étais frappé par le fait qu'il y a eu plusieurs œuvres qui étaient sur cuivre.
Oui.
Est-ce que c'était une pratique courante?
Ah oui.
À l'époque.
Oui. Mais ça ne pouvait pas dépasser des. C'était jamais des grands formats, évidemment. Mais c'était un support qu'ils aimaient bien parce que c'était un support ferme. Et la peinture à l'huile s'accrochait très bien dessus. La conservation était très bonne, quoi.
Et ça avait un rendu différent, en fait.
Sans doute, les couleurs étaient plus franches et plus fraîches, quoi.
Merci.
Mais ça, la peinture se conservait mieux que sur toile, évidemment, parce que la toile vibre toujours un petit peu et les grands formats subissent des accidents. Alors que là, le format était plus réduit, mais plus solide, et donc c'était assez apprécié. Mais le problème, c'est que ça ne dépassait pas une cinquantaine de centimètres sur une quarantaine, une trentaine de centimètres. Voilà.
Merci. D'autres remarques, d'autres questions? Il ne fallait pas que le cuivre soit chauffé, c'était ça le vrai problème. Il aurait dû sans doute se dilater. D'autres...
Moi, je voudrais savoir comment cette artiste italienne, comment elle a été remise au bout du jour, si on peut dire,
qui
aujourd'hui.
Laquelle
Fontana.
De Vignard. Mais ce sont des historiens de l'art. C'est pour ça que j'ai associé ces deux femmes de la Renaissance et les deux femmes de l'époque récemment mises en valeur. En 2015, on découvre... ce sont les historiens de l'art qui font des recherches et qui découvrent que pour résumer les choses, qu'un grand nombre de femmes ont été tenues à l'écart de l'histoire de l'art. D'accord. Et que il faudrait peut-être changer un petit peu cet état d'esprit, et à tel point que ces découvertes bouleversent complètement la chronologie et l'histoire de l'art et les influences de ces femmes. C'est le travail de recherche des historiens de l'art, c'est ça qui est très intéressant. Mais je vous l'ai dit, Lavinia Fontana, je l'ai découvert par hasard, mais je ne suis pas un spécialiste, moi. Et en faisant une recherche sur Lavinia, j'ai découvert Plautilla. Et puis, tout à fait par hasard, je ne sais pas pourquoi, je me suis intéressé à Kandinsky, un article dans lequel on faisait allusion à Hilma af Klint. Alors, je tombe sur Hilma af Klint, et après, je tombe sur Georgiana Afton, de fil en aiguille, comme ça. C'est ça qui est très intéressant, passionnant, quoi.
Bien, vous l'entendez au fond?
Oui.
D'autres questions, remarques, etc.
On va aller manger maintenant.
Non. Bien, ben. On se retrouve donc dans une semaine avec Jean-François. Notre rythme s'accélère, mais après ça va se calmer. Donc ce sont les bronzes de Riace. Et je ne me souviens plus d'ailleurs du terme.
Merci,
de
ce, je ne connaissais pas.
De ce, mais non, et moi non plus.
C'est exceptionnel, c'est super.
À l'extrémité de la
mais pourquoi les femmes s'intéressent tout le temps à la décapitation de
l'opéra. Ah, mais elles devaient s'en dire
voilà,
à Paris.
Et puis à la semaine prochaine.
Représentation par des femmes, par des hommes.
Merci.